Radio Prague, les informations.
La Tchéquie absente à la cérémonie de remise du prix Nobel à l'Union européenne. Le président slovaque en visite en République tchèque à l'occasion du 20e anniversaire de la partition de la Tchécoslovaquie. Mesures contre la pollution de l'air en Moravie du Nord. Selon le président tchèque Václav Klaus, l'absence des dirigeants tchèques à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne est sans importance. Le président estime que si les médias n'attiraient pas l'attention sur l'absence tchèque à la cérémonie d'Oslo, personne ne s'en apercevrait. Aucun dirigeant tchèque n'a participé à la cérémonie. Le premier ministre tchèque Petr Nečas a expliqué son absence par les devoirs gouvernementaux. Quant à Václav Klaus, dont l'euroscepticisme est généralement connu, il a qualifié l'attribution du prix Nobel à l'Union européenne d'erreur tragique. Avant 2015, les entreprises industrielles de Moravie du Nord pourront réaliser les projets écologiques pour 5,7 milliards de couronnes, 228 millions d'euros. L'attribution des subventions pour 26 projets écologiques ayant pour objectif l'assainissement de la production industrielle en Moravie a été signée ce lundi par le ministre tchèque de l'Environnement, Tomáš Chalupa. Les subventions seront prises partiellement en charge par l'Union européenne. Leur attribution doit être encore approuvée par la Commission européenne. Le président slovaque a entamé ce lundi une visite de 2 jours en République tchèque. Ivan Gašparovič effectue le court déplacement alors que les deux pays se rappellent le 20e anniversaire de la partition de la Tchécoslovaquie. Le chef de l'État slovaque a été notamment reçu au château de Prague par son homologue Václav Klaus, puis au Parlement. Les deux chefs d'État ont été unanimes à constater qu'il n'y a plus de questions irrésolues et sensibles entre leurs pays. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 8,7% en novembre. Il s'agit d'une augmentation de 0,2 points par rapport au mois de septembre. Un peu plus de 508 000 personnes étaient donc sans emploi fin novembre, tandis que le nombre d'emplois disponibles a diminué de 4,7%, essentiellement en raison de la faible demande dans l'activité économique du pays. L'ancien procureur et juge communiste Karel Vaš est mort à l'âge de 96 ans dans une maison de retraite à Prague. Selon les historiens, Karel Vaš a joué un rôle important dans les procès politiques manipulés de la fin des années 1940 et du début des années 1950 en Tchécoslovaquie. Il est considéré par exemple comme un des principaux responsables de la condamnation à mort du général Eliodor Pika en 1949, victime d'un procès stalinien. Après la chute du communisme en 1989, Karel Vaš a été accusé d'avoir participé aux crimes du régime communiste, mais ses activités criminelles ayant été prescrites, il a fini par échapper à la justice. Karel Vaš n'a jamais admis d'être coupable et qualifié de persécution les accusations contre lui. Météo. Comme tout au long du week-end, le temps est resté froid ce lundi, jour de la fête des Julies. Il a neigé dans tout le pays et la météo lance un avertissement contre le risque de verglas. Les températures ont varié entre moins 2 et 2 degrés pour les maximales. Mardi, le ciel en Tchéquie sera couvert à nuageux et il neigera par endroits. Les températures maximales se situeront entre moins 5 et moins 1 degré. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. C'est une émission en grande partie consacrée à l'ancien président et ancien dissident Václav Havel que nous vous proposons aujourd'hui puisque nous irons à l'aéroport de Prague où a été inaugurée une tapisserie d'Aubusson financée par de grandes stars mondiales en l'honneur de Václav Havel. Et puis à Paris aussi, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Václav Havel, a été organisé samedi un concert hommage. Tout ceci se sera avant de passer à la rubrique sportive. Bonne écoute de ce programme. L'aéroport de Prague a rendu un nouvel hommage à la mémoire de Václav Havel, décédé il y a bientôt un an, en dévoilant dimanche une tapisserie réalisée par deux artisans français d'Aubusson, d'après un dessin de l'artiste tchèque Petr Sis. Une manière de rappeler le combat mené par l'ancien dissident et président pour la liberté et les droits de l'homme, Marion Dautry.
Après avoir été renommé il y a quelques mois du nom de feu Václav Havel, l'aéroport international de Prague a rendu dimanche un nouvel hommage à l'héritage du combattant pour la liberté. Une immense tapisserie représentant un vol d'oiseaux blancs formant la silhouette d'un homme au cœur blessé trône ainsi désormais dans le terminal 2 de l'aéroport. À l'origine de ce projet, un homme, Bill Shipsey, fondateur d'Amnesty for Art, une fondation de l'ONG Amnesty International. Pour lui, à travers la mémoire d'un homme, c'est son idéal que l'on célèbre.
Nous sommes ici à cette cérémonie, pas tant pour une cause que pour un credo. Ce credo est que nous croyons que le travail des artistes aide à créer notre futur. Nous avons cette conviction et l'espoir que les millions de gens qui passeront par l'aéroport de Prague et par la République tchèque dans les années à venir lèveront la tête et s'arrêteront devant cette magnifique œuvre d'art. J'espère qu'ils y verront la mémoire et l'exemple de l'homme à qui elle est dédiée. J'espère qu'ils continueront et que vous continuerez le combat pour les droits de l'homme qu'il a commencé et que cette œuvre rappellera toujours le pouvoir de ceux qui en semblent privés de créer un monde meilleur.
Une œuvre d'art d'une très grande force symbolique, donc, qui a été tissée d'après le dessin de l'artiste tchèque Petr Sis, un ami de Václav Havel, présent lui aussi à la cérémonie pour admirer le résultat final. Voici sa réaction.
J'ai dessiné une image qui était supposée être triste, car l'idée était d'obtenir une image commémorant le décès ou la disparition de Václav Havel. À l'origine, c'était une image très triste et désespérée. Et de ce dessin désespéré est née une tapisserie pleine d'inspiration, ce à quoi je n'aurais jamais pensé. Ce dessin insignifiant s'est révélé être une merveilleuse tapisserie qui sera suspendue ici à l'aéroport et inspirera les gens.
L'œuvre a été réalisée en France par deux artisans suivant la technique de la tapisserie d'Aubusson, un artisanat traditionnel datant du XVe siècle et inscrit depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un travail émouvant que les deux artisans, Daniel Bayle et René Duché, ont eux aussi découvert dans sa version finalisée lors de la cérémonie.
C'est la première fois que nous la voyons en entier. Donc bien sûr, automatiquement, on était assez stressé du résultat. Et parfois, on est assez satisfait.
Une tapisserie, c'est mural.
C'est mural.
Elle doit se voir au mur avec une certaine distance.
Donc, et nous, on n'avait pas la distance.
C'est notre vision. Et pour moi, c'était très, très émouvant de travailler sur cette tapisserie pour la destination et le thème.
C'est vrai que ça sautait aux yeux. Dès qu'on l'a vu, on a tout de suite pensé exactement à ce qu'avait fait Václav Havel et ainsi de suite. Nous, on a fait tout petit à côté.
Une œuvre d'art devant laquelle il y a effectivement de quoi se sentir petit, puisqu'elle mesure près de 5 mètres de haut et 4,5 mètres de large, et que les voyageurs transitant par l'aéroport Václav Havel de Prague pourront admirer pendant les 10 prochaines années.
Un hommage musical a été rendu à Václav Havel à l'église de la Trinité à Paris le 8 décembre. Le concert qui était organisé sous le patronage de la fondation Vézé, de Dagmar Havlova et de l'ambassade de la République tchèque à Paris a été dirigé par Hugues Reiner. Il en a dit plus à Kateřina Selková avant le début du concert.
Alors c'est le deuxième concert que nous donnons, c'est le Requiem de Devant Jacques en hommage à Monsieur Václav Havel. Il y a 5 chorales, donc il y a le chœur résilience, alors il y a plusieurs chœurs résilience, hein, c'est-à-dire composés de personnes en situation de handicap, il y a le chœur résilience de Boulogne-Billancourt, il y a le chœur Ugrinière qui porte mon nom, donc on est 120 choristes, il y a le chœur Pierre Molina, et puis il y a des musiciens de l'Orchestre de Paris, des musiciens de l'Orchestre National de France, et des musiciens de l'Opéra Bastille, donc ils vont faire le concert. Voilà, il y a 4 solistes, et donc Guillaume Pollard qui va chanter dans le chœur et qui va chanter l'hymne national, lui qui représente, qui est cofondateur de l'Organisation internationale des chœurs Résilience.
Et comment ça s'est créé cette idée que vous faites un concert à l'hommage de Václav Havel?
Parce que son héritage est universel, puisque nous y parlons des droits de l'homme, et donc c'est universel, ça concerne tout le monde, tous les habitants de cette petite planète.
Qui était Václav Havel pour vous?
Ben, vous savez, moi je suis un fils d'écrivain. Pour moi, c'est un personnage très ressemblant de Victor Hugo. Donc on retrouve au fond l'incarnation de ces personnes qui ne souhaitent pas se cantonner à une carrière. Et il aurait pu continuer, Václav Havel, à faire des pièces de théâtre. Il aurait même été presque apprécié de tous, puisque comme c'était un peu surréaliste, comme Shostakovich, on aurait pu imaginer que il pouvait s'accommoder du régime. Mais pour lui, les morts du printemps de Prague signifiaient quelque chose. Pour lui, les droits de l'homme signifiaient quelque chose. Pour lui, être un artiste signifiait quelque chose. Et c'est cette signification qui m'intéresse comme artiste. Il m'interpelle comme un artiste. Un artiste qui n'est pas dans sa tour d'ivoire, mais un artiste qui pense avant toute chose aux autres. Et les plus humbles.
Donc selon vous, Victor Hugo pourrait être un parallèle français de Václav Havel, c'est ça?
Oui, ils ont, disons, un profil assez semblable. C'est-à-dire, au fond, l'intérêt pour les choses de l'État et pas se défiler d'une manière lâche.
Pourquoi avez-vous choisi le Requiem de Dvořák et qu'est-ce que signifie pour vous la musique tchèque?
Alors, j'aime beaucoup la musique de Dvořák. J'aime beaucoup également la musique de Gustav Mahler. J'aime beaucoup la musique de comme on pourrait dire, de cette partie de l'Europe, parce que elle prend sa source dans le cœur de l'âme des peuples, qu'elle est à la fois d'une véritable authenticité, d'une grande chaleur humaine et d'une grande ambition spirituelle. C'est ça qui m'intéresse dans cette musique. Moi, je vois des jeunes qui sont à Sciences Po, qui sont ce soir en train de faire le concert du Requiem de Dvořák. Ils sont fous de joie, d'amour. C'est fun, c'est moderne, c'est incroyable, ça exagère, c'est révolutionnaire. C'est quoi? C'est de la musique de Dvořák.
Ce soir, on va entendre les chansons de trois femmes handicapées qui sont venues avec le directeur de la Maison de la Famille Santa Prague, M. Tomáš Biňovec. Vous travaillez aussi avec les chanteurs handicapés. Qu'est-ce qui est à la source de ce projet et qu'est-ce que ça veut dire l'handicap pour vous?
Oui, les personnes en situation de handicap peuvent nous apporter énormément. J'ai un frère qui est en situation de handicap, qui est schizophrène, et il a, changé ma façon de percevoir mon métier de chef d'orchestre. C'est-à-dire que je suis obligé d'être un chef d'orchestre qui n'oublie personne et qui intègre, qui inclut dans ses concerts. Je dirais des personnes en situation de handicap. Ça, c'est pour retrouver mon frère, pour ne pas l'abandonner.
On passe à la deuxième partie de notre émission, suite de l'interview avec Martin Tuchel, étudiant tchèque en France et volontaire à la Maison tchèque lors des Jeux olympiques de Londres. Dans la première partie diffusée la semaine dernière, Martin avait évoqué ses motivations, son travail à la Maison tchèque, mais aussi le regard qu'il portait de l'intérieur sur l'organisation de ces Jeux. Avec un bilan de 10 médailles, dont 4 d'or, sur lesquelles nous reviendrons dans la seconde partie de cette rubrique, la République tchèque est revenue de Grande-Bretagne l'été dernier avec un des meilleurs bilans de son histoire. Nous avons donc demandé à Martin comment il avait vécu ses performances nationales. On l'écoute au micro de Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Donc, bien sûr, grâce à ce succès avec 10 médailles, l'expérience est encore plus intense qu'on est heureux de ce succès. Et j'ai vécu ce succès vraiment très vivement avec d'autres volontaires et tous les supporters. Et j'étais moi-même même choqué par ce succès, car j'ai attendu moi-même 6 ou 7 médailles.
On sait que la République tchèque a attendu plusieurs jours après l'ouverture des Jeux avant de remporter sa première médaille. Ça s'est ensuite nettement amélioré lors de la seconde semaine. Quelle était l'ambiance à la maison tchèque durant cette attente de la première médaille? Et ensuite, comment étaient célébrées ces médailles?
Exactement. Donc, comme vous avez dit, la plus grande célébration est arrivée après cette attente à la première médaille. C'était l'argent du slalom de kayak. Et puis, bon, les médailles sont arrivées assez vite, heureusement. Et parmi ces médailles, je pense que la meilleure ambiance était pendant le lancer du javelot avec la victorieuse Barbora Špotáková, où la maison était vraiment toute pleine des supporters. Et aussi le dernier week-end doré pour la République tchèque, où nous avons remporté les médailles d'or en pentathlon moderne et la médaille d'or en VTT. Et donc ces courses étaient vraiment célébrées très vivement, très chaleureusement à l'intérieur de la maison et puis avec ces médaillés personnellement.
Est-ce que toi, personnellement, tu as pu être un peu en contact avec ces médaillés?
Oui, c'était aussi une raison d'être, de travailler dans la maison. On a pu rencontrer personnellement tous les sportifs et moi-même, j'avais de la chance de tenir dans mes mains la médaille olympique et de saluer ces sportifs.
Alors, est-ce que cette expérience à la Maison Olympique Tchèque t'a appris quelque chose, t'a fait découvrir quelque chose, puisque cette maison était vraiment un centre tchèque à Londres, la télévision tchèque y avait installé ses studios. Est-ce que pour toi qui est étudiant, qui s'intéresse au journalisme, est-ce que cette expérience t'a apporté quelque chose de ce point de vue-là?
Certes, le fait qu'il y avait le studio de la télévision tchèque avec tous les présentateurs, c'était vraiment génial car tout le monde pouvait observer live, comme disent les Anglais, le programme du jour dans le studio.
Voilà, alors on va revenir un peu plus au sport. Si on fait abstraction, pardon, des performances tchèques, quelles ont été pour toi, qui étais donc là-bas sur place à Londres et qui est amateur de sport, quels ont été les autres moments forts de ces Jeux?
Donc là, c'est très difficile de répondre et de choisir parmi de nombreux moments. Mais je dirais que pour moi, c'était les courses de Usain Bolt, qui a remporté 3 médailles d'or et un record mondial. Et puis, peut-être c'était la dernière finale du taekwondo des hommes, où il y avait la première médaille pour Gabon, le pays africain. Mais il y avait l'égalité, le Gabonais a fait un signe très sportif que son adversaire italien est meilleur.
Enfin, dernière question, si c'était à refaire, sachant ce que tu as vécu, mais aussi ce que cela t'a coûté, puisqu'on l'a dit, les frais par exemple d'hébergement étaient pour toi et non pas pris en charge par le comité olympique tchèque, est-ce que tu te porterais de nouveau volontaire, peut-être pour de prochains Jeux? Alors pas seulement, si on va peut-être pas attendre que ces Jeux soient organisés à Paris, parce qu'il va falloir attendre longtemps, alors peut-être pour de prochains Jeux ou une autre manifestation d'importance de ce type, alors pas forcément sportif, mais une manifestation importante et à caractère international.
Certainement, je porterai de nouveaux volontaires, mais je n'ai pas encore dit que Londres 2012 était vraiment exceptionnel pour ce projet de la Maison tchèque et surtout pour le fait que Londres est quand même proche de la République tchèque et il y a plus de 50 000 Tchécoslovaques qui y vivent. Et d'après ce que j'ai entendu, le comité olympique tchèque prépare déjà un projet d'une petite maison tchèque pour Sochi 2014. Donc les Jeux d'hiver, bien sûr pas une maison mégalomane comme à Londres, mais quand même une maison olympique. Donc là, s'il y a l'occasion d'y aller, j'aimerais bien sûr participer de nouveau en tant que volontaire, mais il faut dire que Sochi est quand même plus loin que Londres et les billets d'avion coûteront cher.
Et la Russie ne te fait pas peur?
Oui.
Non.
Non.
Très bien, merci Martine. Et puis bonne chance. Et puis peut-être à Sochi dans 2 ans pour ces Jeux d'hiver.
Merci.
Et puis avant l'émission spéciale de la semaine prochaine, une émission dans laquelle nous vous proposerons des extraits de quelques-unes des plus belles interviews diffusées dans la rubrique sportive tout au long de cette année, retour sur les réactions à chaud qui avaient été celles en août dernier des 4 Tchèques sacrés champions olympiques à Londres. La première d'entre eux avait été Miroslava Knapkova, vainqueur de la finale du skiff en aviron. 4 ans après sa déception des Jeux de Pékin, où elle n'avait fini que 5e, la rameuse tchèque, grande favorite de l'épreuve, décrochait donc enfin le Graal. Mais partie très vite dans la finale, Miroslava Knapkova concédait avoir ramé dans la seconde moitié de la régate pour rester devant ses adversaires.
Je n'ai pas trop fait attention à la première moitié de la course. J'ai couru comme bon me semblait sans me poser de questions. Ce n'est qu'à mi-parcours que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'avance. Je me suis dit qu'il fallait tenir, m'efforcer de conserver le même rythme, car je savais que les autres filles allaient encore produire leur effort et qu'elles allaient revenir sur moi. Je suis contente d'avoir résisté jusqu'au bout, même si tout le monde a bien vu que je commençais à manquer de force à l'approche de la ligne. Maintenant, je crois qu'il va me falloir un petit moment avant que je réalise ce qui m'arrive.
La deuxième médaille d'or a été remportée au lancer du javelot par Barbora Špotáková, l'incontestable grande vedette de la délégation tchèque à Londres. Leader de l'athlétisme tchèque ces dernières saisons, le statut de Barbora Špotáková pourrait être comparé à celui de Marie-Josée Pérec en France dans les années 1990, quand la sprinteuse guadeloupéenne était pratiquement la seule athlète française à monter sur les podiums des grands championnats. Déjà sacrée en 2008, Barbora Špotáková a donc conservé son titre à Londres. Elle s'est ainsi rapprochée de Marie-Josée Pérec, triple médaillée d'or sur 400 et 200 mètres à Barcelone et à Atlanta, mais surtout de son légendaire entraîneur Jan Železný, lui aussi 3 fois sacré entre 1992 et 2000. Enfin, aux côtés de Jan Železný et d'Emil Zatopek, excusé du peu, Barbora Špotáková est devenue la 3e athlète tchèque de l'histoire possédant au moins 2 titres olympiques. Grande favorite avant la finale à Londres, Barbora Špotáková et sa victoire étaient attendues par tout le pays. Jamais inquiétée par ses adversaires, la nouvelle héroïne du sport tchèque reconnaissait avoir été maître de son sujet à l'issue du concours.
Le concours en lui-même a certainement été plus simple. Lorsque vous arrivez au stade, que vous lancez loin dès votre premier essai et que les autres n'y arrivent pas, tout est forcément plus simple. Mais défendre un titre, qui plus est olympique, est plus difficile dans le sens où les médias et le public attendent de vous une nouvelle victoire. C'est une pression terrible qui dure toute l'année et qui complique la préparation. Vous ne pouvez pas vous préparer dans le calme comme avant une première grande victoire. C'est vraiment compliqué à gérer et parfois même à vivre. Parfois je me suis demandé quel était le sens de tout cela, si j'allais être capable d'y faire face et de répondre aux attentes. Finalement le concours, c'est vraiment la dernière chose que vous devez faire. C'est presque une libération, car pour le reste ce sont des années de travail et de préparation, sans oublier toutes les obligations qu'il y a autour.
Avec 2 médailles d'or, le bilan tchèque à Londres était déjà meilleur que celui de Pékin 4 ans plus tôt, où seule Barbora Špotáková était montée sur la plus haute marche du podium, toutes disciplines confondues. Mais c'était encore sans savoir ce qu'allait réserver le dernier week-end londonien avec 2 autres victoires tchèques. C'est d'abord David Svoboda qui remportait le pentathlon moderne, une épreuve constituée de 5 disciplines que sont l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et le cross-country. En tête du début à la fin, David Svoboda a effacé la déception des Jeux de Pékin où il avait dû abandonner une médaille d'or qui lui semblait promise dans l'épreuve d'équitation, victime d'un cheval refusant d'obéir à ses ordres.
Si j'avais fini le concours d'obstacles à Pékin de quelque manière que ce soit, la médaille d'or me serait certainement revenue, car j'étais bien meilleur que les autres en course. La dernière épreuve, paradoxalement, l'expérience d'il y a 4 ans m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas pensé au fait que j'étais aux Jeux Olympiques. Je savais déjà ce que c'était de lutter pour une médaille et finalement de terminer déçu. J'étais plus libéré ici et tout s'est bien passé.
Enfin, cerise sur le gâteau, la dernière médaille tchèque est revenue au cycliste Jaroslav Kulhavi, de retour au sommet le jour J et vainqueur de la course de VTT.
Gold medalist and Olympic champion, representing the Czech Republic, Jaroslav Kulhavi.
Meilleur vététiste mondial en 2011, saison au cours de laquelle il avait tout raflé depuis le titre de champion du monde jusqu'à celui de champion d'Europe, en passant par le classement général de la Coupe du Monde, le Tchèque n'avait jusqu'alors pas encore gagné la moindre course en 2012. Avant Londres, Jaroslav Kulhavi ne faisait donc plus figure de grand favori qu'il aurait été si les Jeux s'étaient tenus en 2011, lorsqu'il était imbattable, ou presque. Finalement, le Tchèque a retrouvé au jeu le goût du succès pour ce qui restera probablement la victoire la plus marquante de sa carrière. Une victoire d'autant plus belle qu'elle a été obtenue au terme d'un duel intense et acharné avec un de ses plus grands rivaux, le Suisse Nino Scherter. Et pour Jaroslav Kulhavi, aussi savoureux soit-il, ce sacre avait aussi comme un petit goût de revanche.
Je sais que tout le monde m'avait enterré et que beaucoup ne donnaient pas cher de ma peau, mais les gens autour de moi ont continué à me faire confiance. C'est ce qui fait ma force. J'ai quand même une certaine expérience et je savais ce que je faisais. C'est pourquoi cette victoire est d'autant plus formidable.
Formidable. Les JO de Londres l'auront donc été non seulement pour Jaroslav Kulhavi, mais aussi pour l'ensemble de la délégation tchèque, qui a terminé à une très honorable 19e place au classement par pays. Il aurait été quand même dommage de ne pas le rappeler.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Tous ces sujets, vous les retrouvez sur notre site internet le www.radio.cz/fr en podcast, en article ou également en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy !